Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
On a entendu les cris d'une jeune femme, elle était grièvement blessée. C'est un lieu tellement emblématique, je pense qu'il n'a pas été choisi par hasard.
Stupeur à la mi-journée, une attaque à l'arme blanche devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Deux blessés graves, un suspect qui a avoué, six autres en garde à vue, du terrorisme islamiste selon le ministre de l'Intérieur. Point complet dès le début de ce journal. Le 11e arrondissement de Paris sous le choc ce soir, un attentat de plus et des souvenirs douloureux qui rejaillissent. Au sommaire également, la visite d'Olivier Véran à Marseille, le ministre de la Santé accueilli par des restaurateurs qui n'ont pas du tout l'intention de fermer. Un troisième type de test Covid, validé par les autorités sanitaires, rapide, fiable, il devrait aider à désengorger les labos. Le temps de demain, très agité dans le sud-ouest et le pourtour méditerranéen, forte pluie et vent, nous dira Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a clôturé ce soir en baisse de 0,69% à 4729 points. Elle est détaillée à venir avec Didier Hamo de boursier.com. L'interview écho, 22h20, Emmanuel Duteil va revenir sur la crise qui frappe actuellement le secteur événementiel avec Frédéric Bedin, président du directoire Hopscotch Group. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Charlie Hebdo, le Bataclan, les terrasses. C'est dans un quartier parisien déjà traumatisé qu'a eu lieu ce midi cette attaque à l'arme blanche. Attaque qui réveille les cauchemars d'il y a 5 ans car elle a eu lieu précisément devant les anciens locaux de l'hebdomadaire satirique.
J'étais dans mon bureau, dans le bâtiment Charlie. J'ai entendu hurler dans la rue. Je me suis mis à la fenêtre et là j'ai vu une femme s'effondrer sur une machine avec le visage ensanglanté. Et ensuite, donc, je suis descendu et là, j'ai vu un de mes voisins effondré au sol, pareil, avec un coup au visage, qui était allongé. Donc, je lui ai apporté les premiers secours.
Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1 nous a rejoint. On vient d'entendre ce témoignage recueilli par Théo Manval. Guillaume, tout est, semble-t-il, allé très, très vite.
Oui, une attaque rapide, soudaine, sanglante. Juste avant midi, un homme seul arrive à pied, rue à pair, au pied de l'ancien immeuble de Charlie Hebdo. Deux personnes sont là, devant la porte, en train de faire une pause cigarette, lorsque cet homme les attaque à l'arme blanche avec une feuille de boucher avant de s'enfuir. Les deux victimes sont sérieusement blessées. Il s'agit d'un homme et une femme salariés de la société de production Première Ligne qui travaillent toujours à cette adresse et qui avaient, vous vous en souvenez, entendu la tuerie de janvier 2015 et filmé depuis les toits la sortie des frères Kouachi. Juste après l'attaque, à la mi-journée, l'assaillant s'est donc enfui à pied, abandonnant son arme blanche sur place. Grâce à son signalement très rapidement diffusé, les policiers l'ont arrêté à quelques centaines de mètres de là, place de la Bastille. Il avait alors de nombreuses taches de sang sur lui et d'après nos informations, il a reconnu être l'auteur de cette double agression. Un petit peu plus tard, deuxième arrestation au niveau d'une station de métro toute proche. Les policiers ont interpellé un deuxième homme qui pourrait être lié au principal suspect. Ils ont en tout cas été vus ensemble dans les transports. Les enquêteurs restent prudents sur son éventuelle implication. Ces deux hommes sont actuellement en garde à vue à la section antiterroriste de la brigade criminelle parce que cette attaque est bel et bien considérée comme un acte terroriste à ce stade.
Merci Guillaume. Restez avec nous. On va entendre un nouveau témoignage, celui du journaliste Bernard Nicolas qui travaille pour l'agence de presse Première Ligne, société qui produit notamment l'émission Cash Investigation. Ce sont deux de ses salariés qui ont été pris pour cible par le ou les assaillants.
Une jeune femme qui travaille à l'accueil et un responsable de post-production était en train de fumer une cigarette à l'extérieur quand ils ont été agressés. Personne ne peut entrer dans les locaux s'il n'a pas le code d'entrée, donc je pense que l'agresseur attendait que quelqu'un sorte et un peu au hasard, comme ça, a frappé. On a entendu les cris et on a pu voir la gravité des blessures, des images assez terrifiantes, effectivement, des visages en sang. Apparemment, ça va un tout petit peu mieux, c'est-à-dire qu'ils sont conscients, apparemment, et ils se sont même exprimés. Mais on est à la fois inquiet pour nos collègues, un peu fébrile, je ne vous le cache pas, parce que c'est un lieu tellement emblématique. Je pense qu'il n'a pas été choisi par hasard. Nous sommes tous un peu traumatisés.
Traumatisés, car il y a 5 ans, vous nous le disiez, Guillaume Bié, les journalistes de Première Ligne étaient déjà dans ces locaux situés au même étage que les anciens bureaux de Charlie Hebdo. Guillaume, que sait-on des hommes qui ont été arrêtés ?
Alors d'abord, le principal suspect, celui qui a reconnu être l'auteur de cette attaque terroriste, c'est un jeune homme de 18 ans. Il est né au Pakistan, il est déjà connu de la police simplement pour avoir été arrêté en juin dernier à la gare du Nord à Paris avec une arme blanche sur lui. On ne sait pas encore depuis combien de temps il est en France. Les services de renseignement n'ont jamais entendu parler de lui, il n'a jamais attiré l'attention. Une perquisition a été lancée dès cet après-midi à son domicile en région parisienne. Le deuxième suspect, prudence pour le moment, on sait très peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il a 23 ans, qu'il est né en Algérie et qu'il a donc été vu dans le métro parler avec le principal suspect, raison pour laquelle il est lui aussi interrogé. Pour l'instant, globalement, on ne connaît pas les motivations de l'assaillant, mais le lieu de cette attaque, l'ancienne adresse de Charlie Hebdo, la date en plein procès des attentats et la manière dont les victimes ont été attaquées, tout cela a incité le parquet national antiterroriste à se saisir de l'affaire. Dans le contexte que l'on connaît, l'appel lancé par Al-Qaïda il y a 15 jours à commettre ce type d'attaque.
Merci Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. J'ajoute que 5 autres personnes ont été placées en garde à vue. Attaque terroriste donc, dont écoutez les précisions données ce soir par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Manifestement, c'est un acte de terrorisme islamiste. D'abord, le parquet s'est saisi pour terrorisme. C'est dans la rue où il y avait Charlie Hebdo, évidemment. Le mode opératoire, c'est un mode opératoire des terroristes islamistes. Bien évidemment, ça fait peu de doute. C'est une nouvelle attaque sanglante contre notre pays, contre des journalistes, contre cette société qui a déjà connu beaucoup, beaucoup de difficultés, d'émotions quelques années auparavant. Et moi, je voudrais avoir un mot pour les soutenir, évidemment. Aussi.
Le ministre de l'Intérieur qui a reconnu par ailleurs que ses services ont sous-évalué la menace dans la rue où a eu lieu l'attaque. Aucune surveillance particulière n'était en place. Gérald Darmanin était ce soir l'invité du 20h de France 2. Quelques minutes après l'attaque, tous les lycées, collèges et écoles aux alentours ont été bouclés. Des milliers d'élèves ont été confinés jusqu'en fin d'après-midi. Idem pour les crèches et les établissements accueillant des personnes âgées. La panique, le hurlement des sirènes, les cordons de sécurité. Tout ça n'est malheureusement pas étranger au 11e arrondissement de Paris. Yasmina Katou, cette nouvelle attaque a ravivé les cicatrices de 2015.
Oui, les habitants du quartier sont ici comme sonnés par cette nouvelle attaque. Un coup de massue pour Damien qui vit dans le 11e arrondissement. Il a vécu tous les attentats de 2015. Le Parisien vit à une cinquantaine de mètres des anciens locaux de Charlie Hebdo.
C'est trop là. Ce sont de très très mauvais souvenirs et le quartier commence à avoir un passé un peu trop lourd.
Le passé, Sébastien, se l'est pris comme une claque en plein visage ce matin. Le stress, l'angoisse, tout est ravivé.
Moi, c'était ce matin que je me suis dit que je commençais justement à plus jamais penser à regarder derrière moi ou à avoir un truc, une espèce de crainte constante. Je pense que j'ai fait un espèce de deuil de la tranquillité en fait quoi.
Justement, pour vivre dans la tranquillité, c'est le souhait d'Amandine, habitante du 11e depuis 10 ans. Pour ça, à contre-cœur, elle a décidé de quitter Paris. L'attaque de ce matin, c'était la goutte de trop.
On n'a pas envie d'élever nos enfants dans ces conditions-là. Vivement que vraiment on s'en aille.
Danielle, habitante du quartier depuis toujours, tente, elle, de se rassurer.
Ce qui compte, c'est que la personne soit arrêtée aujourd'hui. Ça va aider pour le quartier, je pense, à passer à autre chose. Mais bon, ça nous remonte quand même 5 ans en arrière. Donc on est touchés.
Les larmes aux yeux, Amandine conclut, il ne faut pas s'arrêter de vivre même si une énième attaque peut arriver à tout moment.
Yasmina Katou, cette attaque terroriste survient et ce n'est probablement pas anodin. En plein procès des attentats de janvier 2015, l'annonce est évidemment parvenue jusqu'à la salle d'audience, même si il n'en a pas été question. À la pause, témoins, familles de victimes et magistrats étaient sous le choc. Maître Cathy Richard est l'avocate des parties civiles de l'attentat de Charlie Hebdo.
Forcément, on est tous anéanti. Enfin, moi, je suis révoltée, je suis bouleversée, je suis en colère, bien évidemment. On se dit, quand est-ce que ça va s'arrêter? Forcément, quand on est partie prenante dans ce dossier pour Charlie Hebdo, quand on est partie et qu'on entend qu'à cet endroit-là où le sang a déjà coulé, on refait couler le sang, on se dit, mais c'est, je vous dis, c'est l'incompréhension, c'est la colère, et c'est se dire, mais quand est-ce qu'il n'y aura pas un illuminé, un fou de Dieu ou un fou d'autre chose qui va se prendre pour un justicier et qui va comme ça s'attaquer à des gens? Bon, forcément, nous, ça nous renvoie à ce qu'on est en train de juger, mais ça nous y renvoie hors de la salle d'audience. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est ça, et c'est la seule chose qu'on peut vous en dire aujourd'hui.
Maître Cathy Richard, avocate des parties civiles pour l'attentat de Charlie Hebdo, au micro de Justin Morin, procès où ont témoigné aujourd'hui les veuves des frères Kouachi. Elles ont assuré n'avoir rien décelé d'anormal dans le comportement de leurs époux dans les semaines ayant précédé l'attentat de Charlie Hebdo.
Europe Soir, le 22-22-30.
C'est dans une ville de Marseille en révolte, prête à braver les interdits, que s'est rendu cet après-midi le ministre de la Santé. Olivier Véran a rapidement compris, en arrivant sur place, qu'il n'était pas le bienvenu. Il a été accueilli devant l'hôpital de la Timone par plusieurs centaines de restaurateurs et cafetiers venus dénoncer la fermeture totale de leur établissement. Fermeture qui n'aura pas lieu demain matin, comme prévu initialement, mais dimanche soir, c'est ce qu'a annoncé le président de la région PACA. Renaud Muselier évoque également une clause de revoyure dans 7 jours pour faire le point et réévaluer la situation. Quoi qu'il en soit, cette fermeture, de nombreux restaurateurs marseillais ne la respecteront pas. C'est le cas de Céline, venue manifester cet après-midi devant l'hôpital de la Timone où s'est rendu Olivier Véran.
Monsieur Véran voit bien qu'on n'est pas encore mort et qu'on ne se laissera pas crever. Il faut se battre, qu'on ne ferme. Moi, je ne fermerai pas, mais on rentrera en résistance, oui. Il leur montrer qu'on est là. On est très discret, on ne fait jamais beaucoup de bruit. Je trouve qu'on est plutôt des enfants sages de cette société. Et là, il en est trop. Quand c'est trop, c'est trop.
Donc vous êtes prête à prendre une amende si vous êtes verbalisée?
On n'aura pas le choix. C'est soit je meurs, soit je meurs. Eh ben, je mourrai, mais je mourrai debout. Crever pour crever, autant lutter. Moi, j'ai 5 enfants, j'ai une famille à nourrir, je ne peux pas laisser les choses comme ça, je ne peux pas.
Le fonds de solidarité qui est revu à la hausse?
Ça ne nous sauvera pas. Et nous, on veut travailler. On ne veut pas s'arrêter, on n'en veut pas des aides, on ne demande rien. On veut travailler. On n'est pas plus dangereux que le bus qui circule avec 50 personnes dedans. Il faut qu'on m'explique pourquoi on est puni.
Il y a quand même une réalité sanitaire.
Ça reste que des chiffres. Les chiffres, ça se manipule. Nous, on ne voit rien. Moi, j'ai rien vu, madame. On ne nous explique rien, on nous impose.
Propos recueillis par Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. À Paris, cette fois, la préfecture a donné ce soir le détail des mesures qui vont s'appliquer à partir de demain dans la capitale. Les bars devront fermer de 22h à 6h du matin. La vente d'alcool et sa consommation sur la voie publique seront interdites, là aussi, à partir de 22h. Nous aurons très probablement 2 millions de morts du Covid dans le monde si nous ne faisons pas tout ce qui est possible. L'avertissement ce soir de l'OMS alors que les chiffres de contamination explosent dans de nombreux pays, dont la France. 15 800 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Et une bonne nouvelle ce soir, on en a besoin, concernant cette fois le dépistage. La Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert à un troisième type de test pour diagnostiquer le Covid-19. Il s'agit des tests antigéniques réservés, Virginie Salmen, aux personnes qui ont des symptômes, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ce sont des tests très fiables, un peu moins sensibles que les tests PCR. Et le gros intérêt, c'est qu'on pourra avoir les résultats en 20 à 30 minutes à destination des personnes qui ont des symptômes du Covid seulement pour l'instant. Alors, c'est un petit kit avec un écouvillon, donc c'est toujours un test dans le nez, mais qui pourra être fait soit en laboratoire, soit chez le médecin ou dans certaines pharmacies. Le résultat sera lisible comme sur un test de grossesse. C'est une petite bandelette sur laquelle on dépose le prélèvement nasal et qui réagit en changeant de couleur. C'est donc une solution à l'attente interminable des résultats jusqu'à 5 voire 7 jours.
Autre nouveauté, Virginie, validée par la Haute Autorité de Santé, il y a désormais une solution pour éviter les fameux tests dans le nez si l'on est une personne fragile.
Oui, au lieu de faire un test PCR classique dans le nez, les enfants ou les personnes âgées peuvent désormais se faire tester de deux façons. Alors, si elles ont des symptômes, elles peuvent faire un test salivaire. Si elles n'ont pas de symptômes, un test avec prélèvement au fond de la gorge, c'est un peu moins intrusif.
Précision signée Virginie Salmen pour Europe 1. En bref, le nombre de chômeurs a reculé au mois d'août, moins 4,3% pour la catégorie A, c'est-à-dire les personnes qui n'exercent aucune activité. Mais attention, la prudence s'impose. Cette baisse est due à un glissement des chômeurs de la catégorie A vers les autres catégories B et C, celles des demandeurs d'emploi et qui exercent une activité réduite ou partielle. Les plans sociaux se poursuivent dans le secteur aéronautique. L'équipementier Latécoère, grand nom de l'aviation française, a annoncé aujourd'hui qu'il comptait supprimer 475 emplois sur les 1500 que compte le groupe en France. Et puis le tribunal de commerce d'Evry a pris sa décision pour les restaurants courte paille. L'enseigne sera reprise par son concurrent Buffalo Grill qui va reprendre 2200 des 2500 salariés du groupe. On passe au sport. Il y a du foot ce soir, match d'ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Lille affronte en ce moment le Football Club de Nantes. Sébastien Bouet.
Oui, et après 58 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, Lille mène 1-0 face au FC Nantes suite à un CSC, un but contre son camp de Nicolas Palois à la 43e minute. À l'origine, une belle combinaison lilloise avec une frappe d'Arojo à l'entrée de la surface. Là, font le portier nantais se couche pour détourner la frappe, le danger. Mais derrière, c'est Lille, le latéral lillois, récupère le ballon côté droit et centre en force. Le ballon est dévié par Jonathan David, l'attaquant lillois. Mais ensuite, c'est Palois, le défenseur nantais, qui touche le ballon et va le mettre au fond de ses propres filets. Voilà le LOSC qui mène face à Nantes, mais sans être forcément brillant. Hein. Une équipe nantaise de son côté qui a quelques opportunités, qui n'a pas dit son dernier mot. On se rappelle la semaine dernière, menée 2-0, eh bien, les hommes de Christian Gourcuff face à Saint-Etienne avaient réussi à rattraper leur retard. Méfiance donc côté lillois. On rappelle l'enjeu hein, tout de même de cette rencontre. Si Lille s'impose ce soir, eh bien Lille s'empare provisoirement de la tête de la Ligue 1. 59 minutes de jeu et donc Lille est toujours devant. Lille mène 1-0 face au FC Nantes.
Merci Sébastien Boé en direct du stade Pierre-Mauroy à Lille où on vous retrouvera à la fin de cette édition pour vivre avec vous les dernières minutes de cette rencontre. On passe à la météo. 4 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées pour pluie, inondation et les 2 départements Corse pour vent violent. On comprend Anissa Dadi, le temps sera donc très agité demain.
Oui, et particulièrement de l'Aquitaine aux Pyrénées, Julien. Demain, où il pleut beaucoup, avec sur les Pyrénées de fortes pluies, des rafales de vent et de la neige sur le Piémont à partir de 1500 mètres d'altitude. Les cumuls de pluie attendus demain seront importants, d'où ces vigilances. Le vent souffle fort encore demain et ces conditions vont se calmer dans la nuit de samedi à dimanche. Au bord de la Méditerranée, là, vous allez commencer la journée plutôt de manière sympathique avec le soleil qui revient. Mais attention, en fin de journée, sur le Languedoc et le Roussillon, les pluies sont de retour. Des Alpes aux Ardennes sur la façade est, les pluies se calment à la mi-journée, mais attention aux orages toujours bien présents. C'est sur le quart nord-ouest finalement, sur la Bretagne, la Normandie, le centre-Val de Loire, que la journée sera la plus agréable. Le temps sec et ensoleillé, mais attention, il va falloir se couvrir. Les températures sont fraîches pour la saison avec 5 degrés à Saint-Etienne, 9 à Paris, 15 à Ajaccio, ça c'est pour le matin. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 10 à 23 degrés, 10 pour Aurillac, 11 à Strasbourg, 14 à Dijon et Quimper, 15 à Paris, 18 à Biarritz et 23 pour Bastia.
Merci Anissa Haddadi.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h et bientôt 18 minutes sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec vous, Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street termine la semaine en hausse sur l'espoir d'un nouveau plan de relance aux États-Unis.
Ça y est, enfin on rebondit à Wall Street. Ça a été difficile cette semaine. Le Dow Jones plus 1,34%, 27 175 points. Le Nasdaq plus 2,26%, ce sont les valeurs de technologie qui mènent la danse. 10 913 points sur le Nasdaq. À l'origine de ce sursaut, la perspective d'un nouveau plan de relance qui pourrait enfin se décanter entre le Congrès américain et la Maison-Blanche, qui n'arrivait pas à s'entendre ces derniers mois pour des raisons politiques, en raison principalement du calendrier électoral avec les élections qui arrivent à grands pas. Le dernier plan datait du mois de mars déjà. Le nouveau plan est très encouragé par la réserve fédérale. Ça aide aussi à débloquer la situation, même si pour l'instant, rien n'est acquis. En tous les cas, les marchés y croient. Les valeurs de technologie remontent nettement. On a Tesla plus 5%, 407 $. Apple plus 3,7%, 112,28 $. Des rebonds de l'ordre de 2 à 2,5% sur Amazon, sur Netflix, sur Microsoft, sur Facebook aussi. Le pétrole aussi remonte un petit peu. 40,10 $ le baril WTI. L'euro est assez stable, 1,1620 face au dollar.
La Bourse de Paris a encore perdu du terrain ce soir et accuse une baisse tout de même de 5% sur la semaine.
Ça ne change pas à Paris, moins 0,69%, 4730 points, oui, on s'enfonce. 5% de baisse sur la semaine, c'est quand même assez lourd et ce sont toujours les mêmes secteurs qui sont ciblés. L'aéronautique, Figeac Aéro, moins 6,5%. On a Air France qui baisse toujours sous les 3 euros, moins 2%, Air France KLM. Puis, vous en parliez tout à l'heure, l'Atécoère est suspendu de cotation en vue d'un plan de restructuration très lourd. Les banques aussi, encore en baisse, nette baisse du Crédit Agricole, moins 3,5%, Natixis, moins 3%, BNP, moins 3%, et la Société Générale, moins 2,5%.
L'exception du jour, Suez est remontée de 6% tout de même ce soir.
Oui, ça rebondit, oui, pratiquement 6%, plus 5,7%, 15,85 €. Suez est sous le coup d'un projet de reprise de Veolia à 15,50 € par action, qui pourrait être révisé à la hausse selon la direction de Veolia afin d'aider à débloquer la situation qui s'est tendue ces derniers jours entre Veolia et Suez. Suez en profite en bourse donc, plus 5,7%, 15,85 €. Sur les autres places financières, ça baisse un petit peu partout en Europe, moins 0,3% à Bruxelles, moins 0,2% à Madrid, moins 1% sur le DAX à Francfort et le CAC 40 donc en baisse de 0,69%, 4730 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview écho. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Frédéric Bedin.
Bonsoir Frédéric Bedin.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Vous êtes à la tête d'Hopscotch. Hopscotch est une agence notamment de communication, mais qui s'occupe également de beaucoup d'événements, comme le salon de l'automobile de Paris, salon qui aurait dû ouvrir hier soir, mais qui a bien évidemment été annulé, et ce maintenant quand même depuis plusieurs semaines. La grande nouveauté, et c'est pour ça qu'on a eu envie d'être en ligne avec vous ce soir, c'est que depuis aujourd'hui, la jauge maximale pour les grands événements est abaissée à 1000 personnes, contre 5000 jusqu'ici. La mesure concerne les 11 métropoles classées en zone d'alerte renforcée, comme Paris, Bordeaux, Lyon ou Nice. Résultat, les annulations et les reports de manifestations s'enchaînent. Soyons très clairs, hein, ça plonge encore un peu plus la filière dans une crise sans précédent.
Oui, la crise est terrible. Personne n'avait jamais vécu ça. Mais ce qui, au-delà même de l'annonce de la baisse de jauge de 5000 à 1000, qui est évidemment terrible pour les grands événements, la manière dont c'est annoncé laisse entendre que tous les rassemblements de plus de 10 personnes, y compris professionnels, seraient annulés. Donc nous, les clients, mais même pour une conférence de presse, une réunion de scientifiques de 20, 30, 40, 100 personnes qui est prévue la semaine prochaine, les gens nous appellent en disant « Est-ce que c'est maintenu ?» Alors que bien sûr c'est maintenu et il n'y a aucune interdiction de réunir des élèves dans une classe, des scientifiques pour un colloque.
Ce que vous reprochez aussi, au-delà du problème économique sur lequel on va revenir dans un instant, c'est le fait que ces annonces ne soient pas claires et qu'elles sèment le trouble.
Ouais, elle sème la panique. Et donc la panique chez les clients qui sont les organisateurs, les donneurs d'ordre, la panique chez les participants qui se disent je vais pas y aller parce que finalement c'est interdit, et du coup une panique économique dans une filière qui fait près de 450 000 personnes qui en vivent directement ou indirectement.
Les restaurateurs ont parlé aussi d'un manque de concertation. Est-ce que vous avez le même sentiment? On peut penser par exemple à Roland Garros là, qui dit que voilà, il devait ouvrir là au début de semaine et bing, on leur dit c'est 1000.
Et on leur a dit d'abord c'est 11 005 il y a 15 jours, puis 5 000 la semaine dernière, puis 1 000 hier soir. Donc oui, évidemment, il n'y a pas de concertation du tout. C'est une décision qui tombe du haut. Alors on peut le comprendre et on ne va pas tergiverser. S'il y a vraiment un souci de santé publique, on veut bien le croire et on pense que les spécialistes de la santé sont des gens sérieux. Maintenant, nous, on a organisé des événements depuis maintenant 2 mois auxquels participaient des milliers de personnes avec des systèmes de sécurité sanitaire qui était au maximum et il n'y a eu aucun cas de Covid qui a été révélé, en tout cas qui serait remonté comme ayant été contracté dans les événements organisés de façon sérieuse qu'on a fait. Puis il y a les événements festifs, soirées d'étudiants et tout, où là je comprends le gouvernement.
Mais c'est ça qu'on entend aussi, hein, pardonnez-moi de vous couper Frédéric Bedin, mais un sentiment d'injustice, de totale incompréhension. Certains m'ont dit par exemple pour préparer cette interview, c'est bien gentil, nous on n'a pas le droit d'ouvrir d'une certaine manière, alors que les centres commerciaux, il y a des milliers de personnes sont ouverts.
Oui, il y a les centres commerciaux, mais dans des centres commerciaux, je dirais qu'il y a peu de promiscuité. On se parle pas en se postillonnant l'un l'autre dans la figure. Alors que quand on a un verre à la main dans un bar avec de la musique, on peut comprendre.
Mais là, je comparais par exemple par rapport à des foires. Par exemple, la foire de Saint-Étienne devait ouvrir hier soir. Vous parliez du salon de l'auto qui aurait dû ouvrir hier soir. Il n'y a pas plus de promiscuité d'une certaine manière au salon de l'auto qu'on peut en avoir un samedi après-midi dans un centre commercial les Quatre Temps La Défense, par exemple.
Bah bien sûr, il y a aucune raison de fermer la foire de Saint-Étienne, il n'y a aucune raison d'annuler la semaine dernière les journées du patrimoine. Encore une fois, chaque manifestation, mais dans plein d'endroits, elles ont été annulées, à Lille, dans plein de villes, elles ont été annulées. Et si vous voulez, vous pouvez comprendre aussi, par exemple, Roland-Garros, les gens, le spectateur de Roland-Garros, quand ils repartent, ce sont des gens qui reprennent leur voiture ou qui prennent les transports en commun, qui sont des gens qui respecteront les réglementations. C'est pas comme des supporters du foot qui, après l'équipe gagnante et l'équipe perdante, vont dans des bars où ce sera très difficile de leur faire respecter les mesures barrières. Donc je comprends que dans certains sports, on puisse être prudent pour éviter des comportements dangereux et que dans d'autres cas, comme par exemple le Puy du Fou, où les gens vont en famille, tout le monde a parlé du Puy du Fou. Bon, si vous êtes déjà allé au Puy du Fou, vous savez que c'est un public familial hyper sage et que quand ils repartent bien sagement, ils remontent dans leur voiture et finalement il n'y a pas de danger.
Il n'en reste pas moins que certains pouvaient considérer qu'il y avait là-bas une sorte de dérogation un peu étonnante au regard des obligations imposées aux autres. Malgré tout, ce qui inquiète beaucoup, hein, c'est que la filière qui génère, je crois, 450 000 emplois directs et indirects pour l'événementiel a déjà perdu plus de 80% de son chiffre d'affaires cette année. Des aides ont été annoncées, mais là aussi, on est d'accord, ça ne va pas suffire.
Non, bien sûr, les aides, ça va couvrir 20-30% des pertes, mais hélas, ça couvre pas les frais généraux, ça couvre pas les salaires des dirigeants, ça couvre pas tout un tas de dépenses qui sont les frais courants d'une entreprise. Donc c'est bien, l'État essaye d'aider, mais il va y avoir un nombre de faillites conséquent. Il y a déjà
Qu'est-ce que vous demandez concrètement là comme plan d'aide ce soir sur Europe 1?
Là, nous, on demande qu'au minimum, le chômage partiel à 100% dans les secteurs de l'événementiel soit prolongé en 2021. Par exemple, en Suisse, ils ont déjà annoncé que c'était prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 pour l'ensemble des entreprises du secteur. Nous, on a pour l'instant que le 31 décembre 2020, donc ce qui nous laisse plus que 3 mois de visibilité. On demande que les exonérations de charges sociales soient aussi maintenues et que ce soit clairement annoncé qu'elles sont annulées. Et puis, on essaye de travailler avec le gouvernement sur un plan de relance. Alors, on a été entendu par le ministre et le ministre aurait dit aujourd'hui dans une réunion avec nos représentants qu'il y aura une réunion spécifique la semaine prochaine au métier de l'événementiel qui est différent des métiers de la restauration, même si on est solidaire bien sûr des hôteliers et des restaurateurs qui font partie de notre environnement. Mais le métier des organisateurs a une latence importante puisque vous avez parlé du salon de l'auto, évidemment. Si on décide qu'on peut refaire le salon de l'auto, ça va me prendre minimum 1 an de travail avant de le faire. Et évidemment, les 2 années de passé à organiser celui qui a été annulé là sont perdues.
Ça, c'est certain. Un grand merci en tout cas, Frédéric Bedin, le directeur général d'Hopscotch, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve lundi 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. Restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain et faire un dernier crochet à Lille, où le LOSC affronte en ce moment le Football Club de Nantes. A tout de suite sur Europe 1. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Une, sans surprise, intégralement consacrée à l'attaque terroriste devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. J'avais presque oublié, j'ai peur à nouveau, titre Libération qui a recueilli des témoignages d'habitants du 11e arrondissement de Paris. Depuis Charlie et le Bataclan, les sirènes m'affolaient. Je me faisais justement la réflexion ces derniers temps que ça allait mieux, témoigne une riveraine marquée notamment par la similitude horaire. 11h45, pile à la sortie de l'école, l'horaire de l'attaque de Charlie il y a 5 ans. Le terrorisme frappe encore au cœur de Paris, titre de son côté Le Figaro. Assez d'hypocrisie, s'exclame Yves Tréhard dans son édito. La guerre contre le terrorisme va de pair avec le combat contre l'islamisme. Cette idéologie obscurantiste qui se diffuse dans tous les replis de la société et qu'une partie des responsables politiques de gauche refusent de condamner quand ils ne l'encouragent pas, écrit Yves Tréhard. Pas d'amalgame, disent-ils. Dénoncer le terrorisme sans réprouver les effets ravageurs de l'islamisme relève d'une hypocrisie sans nom, à lire donc demain dans Le Figaro. Allez, comme promis, on termine avec le foot, 5e journée de Ligue 1. Lille affronte le FC Nantes depuis 21h et les Dogs sont en train de croquer les Canaries, Sébastien Boué.
Oui, on peut dire ça. 74 minutes de jeu et Lille mène 1-0 face aux Canaries nantais. Suite à un CSC, on le rappelle, un but contre son camp de Nicolas Palois à la 43e minute. Les Nordistes qui ont bien failli doubler la mise il y a 4 minutes avec une belle combinaison entre Ikoné et Jonathan Mamba. À la conclusion, il enroule sa frappe, une frappe repoussée par le poteau des Lillois qui sont en train d'accélérer, de faire mal. Car pendant quasiment une heure, ils ont mené sans être forcément brillants, sans être forcément convaincant, mais attention tout de même, les Lillois ne sont pas à l'abri, les Nantais ont quelques opportunités, il ne manque pas grand chose, un petit quelque chose, et on se rappelle que la semaine dernière, menés 2-0 face à Saint-Etienne, les Canaries avaient réussi à rattraper le retard, les Canaries justement, les Nantais qui sont à l'attaque avec une frappe, et la parade magnifique de Mike Maignan qui va dévier cette frappe en corner, je vous le disais, les Lillois qui ne sont pas à l'abri, 75 minutes de jeu, et donc 1-0 pour Lille face à Nantes.
Merci Sébastien Boué. En direct du stade de Pierre-Mauroy à Lille, on vous retrouvera